Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alléluia. Jésus est merveilleux. Amen. Et nous avons besoin de le voir dans nos cœurs, jour après jour. Parce que si nous ne voyons pas que Jésus est merveilleux, alors nous allons voir combien ce monde est méchant. Et moi, je préfère voir que Jésus est merveilleux. Ça nous permet de tenir dans ce monde et de vivre la façon dont le Seigneur veut que nous vivions et la façon qui glorifie son nom. Amen. On va lire dans le psaume 119 et aujourd'hui, nous allons lire du verset 41 jusqu'au verset 48. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je cherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois. Je ne rougirai point, je fais mes délices de tes commandements, je les aime, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Amen. Je vous rappelle que ce psaume est un hymne à la parole de Dieu et c'est une parole de l'ancienne alliance. Donc il y a des choses que nous pouvons garder et retenir et d'autres pas parce qu'aujourd'hui nous sommes nés de nouveau. Donc on ne voit pas les choses de la même manière. Amen. Il dit que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que sa miséricorde est sur nous et que son salut est sur nous. Amen. Il est non seulement sur nous, mais en plus en nous. Le salut de Dieu, nous sommes sauvés. Et qu'est-ce que cela veut dire, sauver? Ça ne veut pas dire seulement que mes péchés sont pardonnés, je ne vais plus en enfer, maintenant je vais au ciel. Ça, c'est l'aboutissement de notre salut. Amen. C'est ce qui va arriver lorsque nous quitterons cette terre, lorsque nous quitterons cette vie. Mais le salut, c'est bien plus que ça. J'aimerais que nous puissions prendre quelques instants pour méditer sur les différents aspects du salut. Vous savez, le salut, c'est comme un cadeau que l'on reçoit, une grande boîte dans laquelle il y a différents compartiments qui font partie de cette boîte. Et ça, nous devons le savoir, nous devons le comprendre. Quand on parle du mot salut, que ce soit le mot grec, que ce soit le mot hébreu, puisque là on est en train de lire dans l'Ancien Testament, et je vous rappelle que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu alors que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et dans le mot salut, que ce soit dans l'hébreu ou que ce soit dans le grec, il y a cette notion, cette idée. Il y a en fait 5 choses qui ressortent d'une façon particulière dans le mot salut. Vous savez, parfois, un mot veut dire seulement une chose, mais dans un mot, parfois aussi, il y a plusieurs idées. Et c'est pour ça que des fois, c'est difficile de traduire d'une langue à l'autre, parce que quand on n'est pas expert dans une langue qui n'est pas la nôtre, eh bien, on va retranscrire et on va traduire selon l'aspect que nous connaissons, alors que parfois, il y a plusieurs aspects. Amen. Et dans le salut, il y a exactement 5 aspects. L'aspect de la délivrance. Parce que je suis sauvé, je suis délivré. Et quand on parle de délivré, c'est délivré de la puissance du péché. J'en suis délivré. Vous savez, on n'a pas à juger les inconvertis parce que les inconvertis, ils ne sont pas délivrés du péché ni de la puissance du péché. Donc, ce qui est normal pour la nature d'un inconverti, c'est de vivre dans le péché. Ça fait partie de sa vie parce que ça fait partie de sa nature. Par contre, quand nous sommes des chrétiens nés de nouveau, le salut implique le fait que nous sommes délivrés de cette nature de péché. Cette nature de péché, elle n'est pas en nous. Donc, à chaque fois que l'on pêche, parce que quand l'on pêche, on décide de pécher. C'est-à-dire que nous marchons dans quelque chose qui est contraire à notre nature. C'est ce que l'on appelle faire des choses contre nature. Le monde parle des choses contre nature, même s'il en parle de moins en moins d'ailleurs, parce que tout ce qui est contre nature maintenant est quelque chose de tout à fait normal et acceptable pour ce monde qui se perd. Mais pour nous, vivre dans le péché, c'est à l'encontre de notre nature. Parce que nous avons été délivrés de la puissance du péché. Je vous rappelle que la puissance du péché, c'est la mort. La puissance du péché, c'est la destruction. Et tu as été délivré de ces choses. Donc, qu'un enfant de Dieu dise, je ne peux pas m'empêcher de faire telle et telle chose, il vit à l'encontre de ce que Jésus a vraiment accompli. Et nous devons savoir ce que Jésus a fait et nous tenir sur ce que Jésus a fait et marcher avec ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Il t'a délivré de tous tes péchés. Il t'a délivré de la puissance du péché qui habite en toi. C'est ce que l'on appelle la rédemption. Nous avons été rachetés de ces choses, délivrés de ces choses pour vivre dans la gloire, pour vivre dans le royaume de la lumière, parce que nous sommes des enfants de sa gloire. Nous ne sommes pas les enfants du monde, nous sommes des enfants de sa gloire. Et nous avons été délivrés de nos péchés, délivrés aussi de toutes choses. De toute chose. Jésus a dit à ses disciples dans Luc chapitre 10, verset 19 et suivant, qu'il nous a donné l'autorité légale de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra nous nuire, que rien ne pourra nous détruire. Nous sommes délivrés de la puissance de l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nos vies, à moins qu'on ne le sache pas et qu'on lui laisse de la place. Amen. Nous avons été délivrés de toute malédiction. Vous savez, il y a parfois des chrétiens qui pensent qu'ils sont sous des malédictions parce que leur arrière-grand-mère faisait de la sorcellerie ou je ne sais quoi. Tu as été délivré de ces choses. Je me rappelle, il y a un certain temps de cela, il y a une fille que je connais bien, d'ailleurs c'est une chrétienne, quelqu'un que j'aime bien d'ailleurs, que ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Et cette fille, elle avait continuellement des problèmes et des problèmes spirituels. Elle était tout le temps sous des influences qui amenaient une oppression et de la dépression sur sa vie. Et on a prié pour elle, ça allait mieux. Et après, ça recommençait. Et puis un jour, elle me dit, en fait, je viens d'apprendre une chose, c'est que ma grand-mère a fait de la sorcellerie sur moi. Alors, je lui ai dit, tu sais, la parole de Dieu dit que les choses anciennes sont passées, que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature et que quoi qu'on ait pu faire sur toi dans le passé, dans ton enfance ou autre, ça n'a aucune puissance, ça n'a aucune valeur. Le diable n'a aucun droit sur ta vie. J'ai seulement dit ces paroles. Ensuite, on a prié ensemble. J'ai seulement déclaré ces choses et elle a été entièrement délivrée de ses oppressions, entièrement et pour toujours. Parce qu'elle connaissait, parce qu'elle a connu et parce qu'elle a compris ce que disait la parole de Dieu. Vous savez, on n'a pas besoin de se battre contre le diable. Jésus l'a fait. Jésus l'a vaincu. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est comprendre la délivrance qu'il y a dans le nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, la délivrance a été parfaitement accomplie par son œuvre à la croix. Je suis délivré, tu es délivré de tous tes péchés, de toute influence, quelle qu'elle soit. Si des personnes font de la sorcellerie sur toi, regarde-les seulement et rigole en disant « Tu te trompes de personne. Moi, ça ne peut pas m'atteindre. Je suis un enfant de Dieu. » Tu n'as pas à craindre le diable. Par contre, lui a à te craindre parce que le nom de Jésus est en toi. Le nom de Jésus est sur ta vie. Le sang de Jésus est sur ta vie. Aucun mauvais esprit. Le diable lui-même ne peut rien contre toi. Ne peut rien contre toi. J'entends toujours, de temps en temps, même des histoires assez étranges. Un jour, je parlais, il y a des années de cela, avec un chrétien, parce que moi, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais au Burundi, alors il commençait à me raconter des histoires bizarres. Il disait que, devant certaines personnes, quand ils ont des pouvoirs diaboliques, alors ils peuvent te faire disparaître sous la terre. Et moi, ça m'a fait vraiment rire. Il me dit, ris pas, c'est vrai. Je dis, je ris parce que c'est pas vrai. Personne ne me fera disparaître sous la terre, ni nulle part d'ailleurs, parce que ma vie est cachée en Christ. Le sang de Jésus est sur ma vie, j'ai été délivrée de toute la puissance de l'ennemi. Il ne peut rien contre moi. Ça, c'est le salut que tu as, mon frère, ma sœur. Apprécie ce salut. Apprécie la valeur de ce salut. Parce que nous, en tant qu'hommes, simples hommes, nous n'avons aucune force devant la puissance de l'ennemi, mais grâce à Christ qui vit en nous. Celui qui est en toi, celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Il t'a délivré de toutes ces choses. de toutes ces choses qui maintiennent l'humanité dans la crainte, qui maintiennent l'humanité dans l'angoisse. Nous avons à la place la joie, la paix par le Saint-Esprit. Ça, c'est le royaume de Dieu. Cela fait partie de ton salut. Parle de délivrance. Nous avons été délivrés de tous nos ennemis. Amen. Parle aussi de sécurité. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ce que dit le psaume 4. On va regarder ensemble le psaume 4. On peut remercier le Seigneur qu'il nous a envoyé ce si grand salut. Et ça, c'est depuis longtemps déjà. Verset 9 qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et là encore, Ancien Testament, un psaume de David, « Tu me donnes. » Nous, nous pouvons dire « Tu m'as donné. » Tu m'as donné. Tu m'as donné la sécurité dans ma demeure. Tu m'as donné une assurance, une paix. Je suis en sécurité. Vous savez, quand l'orage gronde, et quand je parle de l'orage, je ne parle pas de l'orage naturel qui amène la pluie, je parle de toutes ces déchaînements, ces choses qui parfois arrivent et qu'on ne comprend pas vraiment très bien. Quand l'orage gronde, quand les problèmes se lèvent, quand l'ennemi se déchaîne, nous avons la sécurité. Nous sommes en sécurité. Amen. Amen. Parce que notre vie est cachée en Christ. Il nous a cachés au creux du rocher, là où rien ne peut nous atteindre. Nous sommes pleinement et parfaitement en sécurité. Et je pense que c'est comme ça pour chaque personne. Quand tu sais que tu es en sécurité par rapport à une chose ou par rapport à une autre, quand tu vois cette chose arriver ou cette autre chose aussi se manifester, ça ne t'impressionne pas. Parce que tu es en sécurité. Amen. Amen. Nous sommes en sécurité. Troisième chose, troisième aspect du salut, il est notre protection. Dans le salut, il y a la protection. Ta vie est protégée. Amen. Ta vie est protégée d'une façon surnaturelle. Ta vie est protégée. Et plusieurs fois, je peux en témoigner, je l'ai vu moi personnellement, ma vie qui était protégée. Des choses qui étaient absolument incontrôlables. Combien de fois cela m'est arrivé? D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Vous savez, on a refait la route de Muyinga, la rue de Muyinga, à Bujumbura. Avant, c'était une piste qui était complètement défoncée. Et depuis qu'on a refait cette rue, alors, des fois, quand il fait nuit, on ne se repère pas très bien, parce qu'il n'y a pas vraiment d'éclairage public. Maintenant, on a amélioré la signalisation, mais à l'époque où cette chose m'est arrivée, il n'y avait pas de bande blanche sur le sol, à l'endroit où il y a le carrefour avec la chaussée Rwagasore. Vous connaissez cet endroit. Et personnellement, je venais vers Kinindo de cette direction-là et j'étais en train de rentrer chez moi. Et quand on arrive à la chaussée Rwagasore, alors là, je dois tourner sur la droite. Et comme il faisait nuit, comme j'étais fatiguée, je ne roulais pas extrêmement vite, mais bon, je ne traînais pas non plus. Alors, et je n'ai pas vu le carrefour. Je ne l'ai pas vu. C'est quand je suis rentrée dedans, je l'ai dépassé, au moins 40 ou 50 km à l'heure. J'ai traversé ce carrefour, alors que dans l'autre sens, il y a souvent des voitures et des voitures qui roulent vite. J'ai traversé ce carrefour, j'ai rien compris. Et en traversant ce carrefour, j'ai dit, « Oh Seigneur, j'ai vu une voiture qui venait à droite, mais elle était suffisamment loin pour ne pas m'avoir touchée. » Alors que je serais venue trois secondes plus tard, je vous assure que j'avais un accident terrible. Il est notre protection. Amen. Et ça, c'est la dernière chose flagrante dont je peux vous parler. Mais tout au long de ma vie, j'ai vu la protection de Dieu, des fois dans des choses incompréhensibles, qui n'étaient même pas maîtrisables. J'ai vu la main de Dieu. Il est notre protection. Et quand tu sais que tu es sous une haute protection, tu ne crains rien. Tu ne crains rien. Vous savez, les gens de ce monde essayent de se protéger d'une façon ou d'une autre. Et parfois, on voit des personnes, des personnalités importantes, alors qu'ils sont entourés d'une multitude de gardes du corps. Et c'est normal qu'une personnalité importante ait ses gardes du corps. Mais si c'est quelqu'un qui est né de nouveau, il le fait parce que, bon, il faut le faire, il faut quand même montrer certaines choses. Mais au fond de son cœur, il sait qu'il n'a même pas besoin de ces personnes-là. Mais on connaît aussi d'autres personnes qui ne sont pas sauvées. Ils ont leur garde du corps et ils sont terrorisés à longueur de journée. Ils ont besoin de leur garde du corps continuellement et même ayant leur garde du corps, ils sont terrorisés. Nous avons les anges qui gardent, qui nous gardent. Comme le dit le psaume 34, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent et ils les arrachent au danger. Ça fait partie de ton salut. Amen. Ça fait partie du salut que Dieu t'a donné. Et s'il te l'a donné, il n'a aucunement l'intention de te le reprendre. Autre chose, et dernière chose d'ailleurs, on a dit délivrance, sécurité, protection, avant-dernière chose, guérison. Ça fait partie du salut. Amen. Non seulement ça fait partie de la volonté de Dieu, parce que Dieu n'a jamais créé la maladie c'est une conséquence du péché, c'est une conséquence de la chute d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ce n'était pas seulement le fait de manger un fruit qui était interdit, mais ils ont ouvert la porte au diable dans ce monde. Et on voit la maladie qui fait des ravages, qui atteint parfois même les enfants innocents. Des choses que la médecine ne peut pas toujours maîtriser. Amen. Mais toi et moi, nous avons la guérison. Ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie de notre salut. Nous avons d'une part les promesses de la parole de Dieu quant à la guérison divine. Jésus, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Nous avons été guéris. La guérison, c'est ce qui t'appartient et ce qui m'appartient. Et on n'a pas besoin d'être dans la crainte. Ne crains pas la maladie, ne crains pas les symptômes, même quand ils viennent, parce qu'ils peuvent venir de temps à autre. Mais de la même façon qu'ils viennent, ils vont repartir. Quand tu sais que la guérison fait partie de ton salut. Quand la maladie frappe à ta porte, tu peux la regarder en face et dire, tu te trompes de personne. La guérison fait partie de mon salut. Tu n'as aucun droit de venir m'attaquer. Et quand tu sais comment résister à ces choses, comme le dit Deutéronome, parmi les bénédictions de la loi, quand l'ennemi viendra contre toi par un chemin, il s'enfuira par 7 chemins. Tu as la puissance, le pouvoir, l'autorité légale dans le nom de Jésus de faire fuir la maladie de ta vie, de ta maison, de ta famille, de tes enfants. Tu en as un parfait droit. Vous savez, quand on n'est pas sûr de nos droits, eh bien c'est difficile de les mettre en application. Amen. Mais quand tu sais que tu sais que tu sais que tu sais, tu peux dire avec autorité, sans avoir besoin de pleurer, de crier, de trembler, tu peux dire, ce sont mes droits, la guérison m'appartient. Et le dernier aspect du salut, c'est la santé spirituelle. Tu peux vivre une vie en bonne santé spirituelle. Qu'est-ce qui abîme la santé spirituelle de beaucoup de chrétiens? C'est le manque de connaissances, de croire des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu ou de croire des choses qui ne sont pas selon notre alliance. Et je suis vraiment contente d'être avec vous en ce moment en train d'étudier ce psaume 119 parce que il nous montre tellement ce qu'est l'ancienne alliance et aussi au travers de certaines déclarations, nous pouvons les confronter par rapport à la nouvelle alliance et dire oui, il y a une réalité là, mais la vérité pour nous en Jésus-Christ est différente. Quand il dit, on retourne dans le psaume 119 verset 41, Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Son salut est déjà venu. Il est venu sur ta vie et sa miséricorde aussi. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est quelque chose de merveilleux. C'est de ne pas être traité selon ce que nous mériterions. Vous savez, ce monde nous a traités lorsque nous étions jeunes, enfants, selon ce qu'on méritait et parfois même injustement. Je pense que ça s'est arrivé à chacun d'entre nous quand nous étions enfants de faire une erreur quelconque, volontairement ou involontairement, et de prendre en retour des claques. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. et des claques sans explication d'ailleurs. Ça nous est arrivé de recevoir des coups quand nous faisions de mauvaises choses. Ça nous est arrivé aussi de recevoir des coups, que ce soit physiques ou des coups moraux, au travers de paroles, de certaines attitudes, de certaines personnes. Parfois, c'était même injuste. Et la miséricorde de Dieu, c'est tout à fait le contraire. C'est de nous traiter non pas selon ce qu'on aurait mérité. Parce que ce que nous méritions, c'était tous l'enfer. Mais là, par sa miséricorde, Dieu nous a sauvés. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il est venu nous chercher quand on ne le cherchait pas. Parce qu'aucun homme ne cherchait Dieu. Tu peux dire, si moi je le cherchais, pourquoi est-ce que tu le cherchais? Parce qu'il a touché ton cœur. Il t'a fait grâce. Il a étendu sa miséricorde sur ta vie. Il ne t'a pas laissé dans les ténèbres. Il a commencé à toucher, à travailler ton cœur et mettre en toi ce désir pour Dieu et cette recherche. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux. N'oubliez jamais que Dieu est miséricordieux. Il est bon, riche en bonté. Il est riche en bonté, riche en miséricorde, lent à la colère, rempli de compassion. Voilà qui est Dieu. Il continue verset 42, « Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. » Je pourrai répondre à toute circonstance. Amen. Je pourrai répondre à toute situation. Je pourrai répondre à l'adversité, quelle qu'elle soit. Non pas parce que je suis une personne intelligente. Non pas parce que je suis quelqu'un qui est fort. Vous savez, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, physiquement et psychologiquement. Il y a des personnes, dès qu'ils ont un petit problème, pour eux c'est la fin du monde. Il y en a d'autres qui peuvent supporter davantage de pression, et certaines personnes même beaucoup de pression. Mais ce n'est pas de cela dont on parle. Si nous pouvons supporter les plus grandes dépressions, c'est parce que nous avons Christ en nous. Parce que nous nous confions en sa parole. J'aime ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 9, c'est l'apôtre Paul qui parle. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et il conclut en disant au verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Quand tu te confies dans le Seigneur, quand tu te confies dans sa parole, tu verras toujours l'adversité fuir devant toi. Amen. Mais il y a une chose que nous devons aussi réaliser, c'est qu'il n'y a pas de magie dans les choses spirituelles. Dieu n'est pas un magicien. Il n'a pas une baguette magique, il ne claque pas des doigts et hop, les choses arrivent. Et si Dieu ne fait pas les choses comme ça, pour vous et moi, c'est exactement la même chose. Nous avons besoin de nous confier dans la parole de Dieu, de nous confier dans le Seigneur, afin de voir la manifestation de toutes ces choses. Parfois, cela se fait d'une manière instantanée, mais ce n'est pas toujours le cas. Amen. Il continue verset 43, « N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. » Et là encore, c'est la parole de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui vit seulement dans ses sentiments, dans ses pensées. Comment est-ce que Dieu peut retirer quoi que ce soit de ta bouche? Comment est-ce que Dieu pourrait retirer la parole de la vérité de ta bouche? C'est absolument impossible. Amen. C'est absolument impossible. Je vous rappelle que la parole de Dieu est la vérité, mais tout ce qui est dit dans cette parole n'est pas vrai. Comprenez-moi bien, je vais vous expliquer. Je ne suis pas en train de dire que la Bible n'est pas vraie, dans le sens où on ne peut pas se confier en elle. On peut se confier en elle et elle est vraie. Mais il y a des déclarations dedans qui sont vraies, mais qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Quand on lit, par exemple, le livre de Job, on voit les discours des amis de Job qui disent beaucoup de choses et tout un tas de choses. Et à la fin, Dieu se fâche. Dieu se fâche. Si vous ne me croyez pas, on va regarder ensemble dans Job chapitre 42. Job chapitre 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Lisez les discours de ces personnes. Et pendant un certain nombre de chapitres, parce que ce livre est vraiment long, on voit des déclarations que ces hommes font à propos de Dieu. Et c'est vrai dans le sens où ils ont vraiment fait ces déclarations, mais que ces déclarations étaient fausses, parce que ça a mis même Dieu en colère. Amen. Donc la parole de Dieu est la vérité, mais chaque parole n'est pas à prendre comme argent comptant, comme venant de ce que Dieu veut, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu veut faire. On doit être capable de faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. Et cette parole nous a été donnée pour notre instruction quand on voit ce que les hommes disent ou ce que les hommes font, parfois qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, dans cette même parole, c'est pour notre instruction, afin que nous-mêmes, nous ne fassions pas les mêmes choses, que nous ne pensions pas les mêmes choses et que nous ne disions pas les mêmes choses. Donc, oui, la parole de Dieu est vraie, mais certaines déclarations de cette parole nous ont été données pour nous montrer ce que les hommes pensent, que les hommes disent, qui parfois n'est même pas conforme à ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense et de ce que Dieu veut faire. Amen. C'est comme quand on lit cette parole, il y a certaines choses qui nous sont adressées à nous personnellement et d'autres qui ne nous concernent ni de près ni de loin. Il y a certaines choses qui sont adressées aux païens. Il y a certaines choses qui sont adressées au peuple juif et ça ne te concerne pas, ni moi non plus d'ailleurs. Vous savez, quand on lit par exemple ce que Jésus dit aux pharisiens, il les traite de race de vipères. Et quand on est quelqu'un qui n'est pas versé dans la parole de Dieu, qui ne comprend pas vraiment le message de la parole de Dieu. Vous savez, on a tous fait ça au début de notre conversion. Alors, on aime vraiment le Seigneur, on est sincère, mais on n'a pas de connaissance, on n'a pas de compréhension. Alors, ce qu'on a tendance à faire quand on se réveille, c'est de prendre la Bible et d'ouvrir au hasard en disant « Seigneur, il faut que tu me parles ». Et un jour, tu vas tomber sur « Ne crains pas, petit troupeau, le Père a trouvé bon de te donner le royaume ». Alors tu te sens bien, tu dis « Oh, gloire à Dieu, je suis béni ». Et puis, peut-être quelques instants après, tu veux chercher une autre parole au hasard et tu tombes sur « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu ?» Et tu te dis « Mais Seigneur, tu es en colère contre moi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et tu te sens complètement déstabilisé. Quand Jésus dit « Race de vipères », il ne parle pas à son peuple, il parle aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, aux docteurs de la loi et aux juifs. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes voyaient Jésus de leurs propres yeux. Au fond de leur cœur, ils savaient parfaitement bien qui était Jésus, mais ils ont refusé de croire en lui. Ils l'ont remis en question, ils l'ont attaqué, ils l'ont remis en question non pas parce qu'ils n'étaient pas sûrs, parce que vous savez, quand on n'est pas sûr de quelque chose, on a le droit de remettre cette chose en question. Amen. Ça, ce n'est pas un péché. Mais quand ils étaient sûrs au fond de leur cœur, au fond de leur cœur, ils savaient très bien la vérité. Mais ils haïssaient la vérité. Ils refusaient la vérité. Ils ont outragé Jésus. Ils ne sont pas rentrés dans le salut et ils ont même empêché un certain nombre de personnes d'y rentrer. Et c'est pour ça que Jésus leur a donné ces paroles. Mais à vous et à moi, il ne peut pas dire de choses pareilles. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses rachetés. Et nous devons comprendre à qui s'adresse la parole de Dieu, comment cette parole parle, ce qui nous concerne. Amen. Ce qui nous concerne et ce qui ne nous concerne pas directement, parce que tout nous concerne dans le sens où on peut voir qui sont les gens, qui sont les hommes, comment ils se sont comportés vis-à-vis de Dieu, ceux qui ont refusé Dieu. Ça nous concerne, on a le droit de le savoir et Dieu veut que nous le sachions. Ce que pensent les hommes, ce que disent les hommes, mais ce qui nous concerne, c'est ce que pense Dieu, ce que dit Dieu, et ce qu'il pense et ce qu'il dit sur notre propre vie. Et c'est là vraiment où nous devons puiser, c'est là vraiment où nous devons, de tout notre cœur, nous attacher. Amen. Donc, Dieu n'a jamais eu l'intention et il n'a pas l'intention de retirer de ta bouche la parole de la vérité. Ça, ce sont des discours de quelqu'un qui aime le Seigneur, mais qui ne connaît pas grand-chose et qui ne comprend pas grand-chose, mais qui a pourtant cette soif et ce désir pour la parole de Dieu. Amen. Il dit « J'espère en tes jugements, je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je cherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et que je veux méditer ces statuts. » Et on va finir par deux pensées ici. La première pensée, c'est que quand tu te confies dans la parole de Dieu, quand tu te confies en Dieu pour marcher avec ce que Dieu te dit, eh bien tu vas marcher au large. Ça c'est le verset 45. « Je marcherai au large ». Il y a une différence entre marcher à l'étroit et marcher au large. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Vous savez, il y a parfois des endroits où il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour passer. Et quand on peut voir parfois certaines personnes qui sont de grands sportifs ou qui sont des artistes, il y a certaines personnes qui marchent même sur une corde. Qui a déjà vu ça? Sur une corde, mais à plusieurs mètres du sol. Et quand on marche sur une corde, je vous assure qu'on ne marche pas au large. Quand on marche sur une poutre, parfois il y a certains acrobates, ils font tout un tas de pirouettes sur une poutre. Moi, je me rappelle, quand j'allais à l'école secondaire, on devait passer par là. Et moi, ça m'angoissait, parce que je n'ai pas un bon sens de l'équilibre. Même déjà, s'il n'y a pas de poutre, je peux perdre l'équilibre, on se demande pourquoi. Alors, il fallait marcher sur une poutre qui fait, je ne sais pas, 10 cm de large. Alors, tu dois mettre un pied devant l'autre, tu dois te concentrer, te dire « attention ». Et quand tu fais une pirouette sur cette poutre et que tu loupes ton coup, je te promets que ça fait très mal. Ça fait très mal. Dieu veut que tu marches au large, c'est-à-dire que tu marches à l'aise. Quand le chemin est bon. Je remercie vraiment le Seigneur parce que je vois que ici dans cette ville, il y a de plus en plus de bons chemins. Mais il y a une époque où la rue de Louprenas, c'était que des trous, vous vous rappelez. Alors pour aller d'en haut jusqu'en bas, ça nous prenait du temps et c'était fatigant. Parce qu'en fait, on devait parcourir pratiquement deux fois la distance parce qu'il fallait contourner les trous et faire comme ça. On n'était pas à l'aise, on n'était pas au large. Mais maintenant, on ne se pose aucune question. Et quand une route est en bon état, qu'on soit à pied ou en voiture, on ne se pose aucune question. Tu marches sans même faire attention où tu mets les pieds parce que tu sais que la route est en bon état. Amen. Et ça, c'est marcher à l'aise, c'est marcher au large. Ça, c'est l'avant-dernière pensée avec laquelle je voulais conclure ce matin. Et la dernière chose, il dit « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. » Quand on lève les mains vers quelque chose, c'est qu'on veut cette chose et c'est qu'on veut la saisir. Qu'est-ce qui te fait lever les mains? Ça, c'est la grande question que je pourrais te laisser ce matin. Vers quoi lèves-tu les mains? Vers quoi aspires-tu? Quel est vraiment le désir profond de ton cœur? Amen. Que le Seigneur vous bénisse et passez une très bonne journée.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.